Bonjour tout le monde. Voilà, moi je m'appelle Laetitia, je suis une collègue de Jean-Jacques à Champfleury. Et donc vous, Église de Pontcharrat, peut-être vous ne le savez pas tous, mais vous êtes mes partenaires dans mon ministère à Champfleury. Ministère qui consiste entre autres à partager l'évangile et à former des disciples auprès des enfants, des jeunes et des adultes qui viennent passer un temps à Champfleury. Et une des choses que je fais pour ça, c'est notamment au travers de l'École biblique des filles, c'est d'enseigner un cours sur l'épître de Paul aux Philippiens. C'est une lettre que Paul a écrite justement à ses partenaires dans le partage de l'évangile pour les remercier d'un don qu'il a reçu de leur part. Et donc en réfléchissant un peu au message, quand Michael m'a demandé de venir ici, au message que je voulais vous partager, ça m'a semblé logique d'en faire un sur un bout de cet épître. Mais ce qui m'a fait me décider pour cette lettre, c'est son thème. Est-ce que vous connaissez un peu le thème de la lettre aux Philippiens? Est-ce que vous avez une idée? Non? Ouais, c'est ça, merci Jean-Jacques. Donc la lettre aux Philippiens, elle est connue comme l'épître de la joie. En 4 chapitres, on y retrouve 16 fois le champ lexical de la joie. Donc c'est une toute petite épître, mais on y retrouve vraiment beaucoup ce champ lexical, 8 fois en ce qui concerne Paul et 8 fois en ce qui concerne les chrétiens. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de tout connaître sur Philippiens, ni d'être une grande théologienne, loin de là, mais j'aimerais vous amener avec moi à la découverte de quelques pépites, de quelques petits trésors qu'on peut trouver dans la lettre de Paul aux Philippiens et surtout quelques pistes de réflexion pour nos vies. Et on se concentrera donc sur les versets 12 à 26 du chapitre 1. Alors avant de nous plonger dans la lettre, juste quelques informations de contexte. Donc Philippe, ça se trouve au nord de la Grèce. C'était le premier endroit en Europe qui a entendu la nouvelle d'un roi nommé le crucifié, nommé le ressuscité, donc Jésus de Nazareth. On voit ça en Actes 16. Et c'était pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul, entre l'an 49 et 52. Donc l'église de Philippe, elle était principalement composée de païens, donc d'origine non juive, comme Lydie par exemple, la première convertie d'Europe. Paul, il est retourné à Philippe à plusieurs reprises, dont 2 fois pendant son troisième voyage missionnaire. Et les Philippiens, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu ceux qui ont donné le plus de joie à Paul parmi toutes les églises qu'il a fondées. Alors bien sûr, il les a toutes aimées. Mais cette lettre respire une confiance et un enthousiasme qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs. Donc à cette époque, les chrétiens étaient persécutés par les Romains parce qu'ils faisaient de Jésus leur roi, alors que seul l'empereur pouvait être vénéré. Et donc cette lettre de Paul, selon les commentateurs, elle peut avoir été écrite soit depuis Éphèse, Césarée, Corinthe ou Rome. Il y a des arguments pour et contre un peu dans tous les cas. Moi, je suis partie plutôt sur l'hypothèse d'Éphèse. Donc, Paul, l'apôtre, est en prison. Les Philippiens lui ont envoyé un don d'argent. Et c'est justement l'une des raisons de cette lettre, pour les remercier chaleureusement. Et à l'époque, quand tu étais en prison, les gardiens ne pourvoyaient pas à tes besoins. Tu devais compter sur tes amis, sur tes proches pour pourvoir à tes besoins pendant ton incarcération. Et donc Paul ne pouvait plus travailler comme bâtisseur de tentes en étant en prison. Donc il était totalement dépendant de ce genre d'aide. Et le fait que des étrangers d'un autre pays récoltent de l'argent et l'envoient avec l'un des leurs dans un voyage long, on l'a vu sur la carte, depuis Philippe jusqu'à Paul, un long voyage et aussi dangereux, pour l'apporter à leur ami emprisonné, montre aussi toute l'estime et tout l'amour qu'ils avaient pour Paul. Pour avoir une petite vision globale un peu de la lettre, voici un peu le découpage des thèmes de cette lettre, selon les chapitres. Donc, au chapitre 1, « Choisis la joie, abandonne la négativité ». Chapitre 2, choisis les autres, meurs à toi-même. Chapitre 3, choisis Jésus, abandonne la performance. Et chapitre 4, choisis la paix, dépasse les problèmes. Et donc, dans le chapitre 1, dans ce choix de la joie, on va regarder un peu plus en détail les versets 12 à 26, voir ces circonstances avec les yeux de Dieu. Et donc, on va commencer la lecture, les versets 12 à 14, donc Paul qui voit l'avancement de l'évangile à travers ses chaînes. Je vais lire. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire, donc c'est une sorte de tribunal, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament ? C'est une histoire dramatique d'un jeune homme, le deuxième plus jeune de 12 frères, le fils de Jacob, qui a été jeté dans un puits par ses frères jaloux qui voulaient le tuer. Il a ensuite été esclave en Égypte, où il est devenu un serviteur dont son maître avait confiance en lui, jusqu'au jour où il a été faussement accusé de viol. Il a été mis en prison, puis soudainement, grâce à un rêve qu'il a pu interpréter des années après, il a été sorti de prison pour devenir l'intendant du pharaon pendant une grande période de famine. Ses frères sont alors venus en Égypte pour trouver à manger, et Joseph leur a pardonné, alors qu'il aurait pu se venger de tout le mal qu'il avait subi à cause d'eux. Et il leur a dit quelque chose d'exceptionnel en Genèse 50-20. Il leur a dit « N'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et c'est dingue, dans notre histoire, dans notre texte de l'Épître aux Philippiens, Paul semble avoir la même confiance forte en la puissance de Dieu, même lorsque tout semble aller mal. Joseph, lui, il a dit ça avec le recul, même s'il s'était probablement accroché à Dieu avec espoir tout au long de l'histoire. Et ça nous arrive aussi parfois. Après avoir vécu une épreuve, avec un peu de recul, on arrive à voir le positif que Dieu a fait émerger de tout ça. Mais là, Paul dit tout cela alors que son histoire se poursuit, alors qu'il est encore en prison. Mais lui, comparé à Joseph, il connaît l'existence d'une histoire beaucoup plus récente pour laquelle un autre juif, accusé à tort par son propre peuple, a subi la peine la plus horrible par des gens méchants et qui a quand même démontré, par la résurrection, que Dieu le faisait pour le bien. Et cette histoire de Jésus, elle fait écho aussi à la croyance juive dominante selon laquelle le Dieu d'Israël, Yahweh, produirait d'une manière ou d'une autre, étrangement, du bien à partir du mal. Et du coup, on ne devrait pas vraiment être surpris par ce que Paul dit au verset 12. Alors attention, ça ne veut pas dire que le mal est nécessaire pour Dieu. On ne justifie pas le mal, mais Dieu sait l'utiliser pour le mieux. Dieu utilise ce qu'on aimerait jeter pour notre propre bien. Comme il le dit aussi Paul dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et Paul, dans notre texte, là, il est confronté à deux problèmes, l'un par-dessus l'autre. D'abord, le fait d'être en prison, mais aussi le fait, et on va le voir juste après, que des personnes annoncent l'évangile avec de mauvaises intentions. Mais dans les deux cas, il déclare que ce qui semble être une difficulté majeure est transformé par Dieu en une opportunité pour l'évangile. Comment Dieu a utilisé les circonstances de Paul ? En étant enchaîné, Paul a parlé aux personnes qui le gardaient et certains sont devenus chrétiens. Et de la même manière, Dieu ouvre des portes pour nous utiliser. Même s'il y a des endroits que je considère comme des prisons, Dieu peut m'utiliser pour partager l'évangile. Et plus encore, on peut se réjouir dans la manière dont Dieu utilise nos circonstances. Et comment on voit le beau dans ce que Paul traverse ? Dieu a utilisé Paul pour inspirer les croyants là où il était emprisonné. L'attitude de Paul a encouragé les chrétiens. Paul encourage les chrétiens face à la persécution. Il est un témoignage pour tous ceux qui seraient persécutés. On le sait, les gens regardent comment nous réagissons face à la difficulté et ils n'y sont pas insensibles. Dieu a aussi donné du temps à Paul pour écrire en prison. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, tout ce qu'on appelle la christologie et ce qu'on retrouve dans les lettres, tout ça, on le retrouve dans les lettres qu'il a écrites en prison. Comme ça nous aurait manqué. Dieu utilise tous les bouts cassés pour faire quelque chose de beau, comme une mosaïque ou le kintsugi, cet art japonais qui consiste à prendre des bouts cassés d'un pot et à les recoller avec une résine et de la poudre d'or pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Et je peux moi aussi apporter ces morceaux cassés, tous ces morceaux cassés de mon passé pour qu'il en fasse quelque chose de beau. Alors avant de passer à la suite de notre texte, je vais nous encourager à prendre un temps pour réfléchir. Peut-être même noter, je vois que certains notent, les bouts cassés que Dieu a pu transformer dans vos vies pour quelque chose de beau. Ou les bouts cassés peut-être que vous aimeriez remettre à Dieu pour qu'il en fasse quelque chose de beau. Quelles sont les prisons dans lesquelles vous avez l'impression de vous trouver ? Une maladie qui semble vous empêcher de faire ce que vous voudriez ? Une addiction qui vous rend esclave ? Une situation familiale compliquée où vous commencez à perdre espoir sur le fait que Dieu peut encore agir ? Une difficulté avec un collègue de travail qui rend vos journées longues et pénibles ? Une dépression qui vous donne envie de rester au lit toute la journée ? Quelles sont les prisons dans lesquelles Dieu veut quand même agir et vous utiliser pour le faire connaître ? Et comment faire de ces circonstances un témoignage puissant de la bonté et de la fidélité de Dieu, comme Paul dans sa prison en train d'écrire aux Philippiens ? Donc je nous laisse un petit temps, quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir en silence. Donc Paul... Là, vit des moments vraiment difficiles. Mais il semble sincèrement avoir confiance que ce qu'il vit a un sens. Que Dieu utilise ce qu'il vit. Est-ce que je le crois sincèrement aussi quand je suis au fond du trou, alors que je suis en train d'obéir à Christ et que j'ai l'impression que rien ne va ? Mais quelle est la motivation de Paul pour tout ça ? La motivation de Paul, c'est Christ seul. Je continue la lecture. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe ! De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, donc ma délivrance dans ce cas, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc on voit ici que certains prêchent par amour et d'autres par jalousie. Mais Paul nous dit que l'essentiel, c'est que Christ soit proclamé. Est-ce qu'on arriverait à dire ça aussi et à ne pas se soucier des intentions de ceux qui prêchent, mais juste à se réjouir qu'ils annoncent Christ ? Dieu utilise même ceux qui prêchent avec de mauvaises motivations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Tony Anthony ? Ça fait déjà quelques années, mais jusqu'en 2013, c'était un héros de millions d'adolescents, Tony Anthony, donner des conférences édifiantes dans des écoles et des prisons à travers le monde en promouvant son autobiographie « L'œil du tigre ». Dans ce livre, vendu à 1 500 000 exemplaires dans 25 pays, l'auteur se présente comme 3 fois champion du monde de kung-fu et ancien garde du corps d'élite, avant de se convertir au Christ. Des dizaines d'églises évangéliques en Europe soutenaient sa mission, y compris en France. Dans ce livre, il y raconte plusieurs histoires incroyables de comment Dieu a agi dans sa vie, le faisant passer d'un homme horrible à un homme racheté. Des choses, bien sûr, que Dieu aurait pu faire. Mais il s'est avéré que tout ça était un gros mensonge. Presque tout ce qu'il avait raconté dans son livre et lors de diverses conférences, je me souviens même qu'on l'avait fait venir à un énorme événement d'évangélisation à Lyon quand j'étais étudiante. J'avais même emmené mes amis non-chrétiens. Tout ça était inventé de toutes pièces. Mais quelle déception! Quel sentiment de trahison! Et pourtant, Dieu a utilisé cet homme pour interpeller des centaines de personnes qui ont été touchées par le message de l'Évangile qui lui reste vrai malgré tout. Alors bien sûr, ça ne justifie pas ce qu'il a fait, ni qu'il a bien fait de faire ça pour attirer les gens à Dieu, au contraire. Mais Dieu a utilisé ses mauvaises intentions, ses mauvaises motivations pour l'avancement de son royaume. Et du coup, ce passage, ça nous invite aussi à nous questionner sur nos propres motivations lorsqu'on annonce l'Évangile. Est-ce que à l'époque, quand vous étiez jeune, vous étiez motivé par cette sortie d'évangélisation parce qu'il y avait le beau gosse ou la belle gosse pour laquelle vous étiez un peu en crush qui allait ou est-ce que je suis motivée pour faire ce message dans un camp ou dans une église parce que j'aime être sur scène, recevoir peut-être quelques compliments? Est-ce que j'organise cet événement d'évangélisation pour passer de bons moments avec mes amis? La liste pourrait continuer. Et si je suis honnête avec vous, je pourrais répondre à chacune de ces questions avec une motivation qui, à un moment donné, n'a pas été très bonne. Mais Dieu m'a utilisé malgré tout pour que son évangile soit annoncé. Et heureusement qu'il le fait. Et vous avez probablement vos propres exemples vus ou expérimentés. Et la motivation de Paul va encore plus loin. Je continue à lire. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. L'une des grandes questions que les gens se sont posées tout au long de l'histoire de l'humanité et que les gens se posent encore aujourd'hui, c'est la suivante. Où allons-nous lorsque nous mourrons? Et jusqu'à récemment, la plupart des gens, dans ce qui était le monde occidental chrétien, répondaient au ciel. Certains avertissant quand même qu'il pouvait y avoir d'autres destinations qu'il valait mieux éviter. Mais aujourd'hui, avec le déclin du christianisme dans le monde occidental, les gens se tournent à nouveau vers les religions populaires pour trouver des croyances alternatives. Certains pensent que tous les êtres vont se fondre dans une grande mer de conscience, ou peut-être d'inconscience. D'autres disent et semblent vraiment penser que nous deviendrons tous des étoiles. D'autres parlent de réincarnation, etc. Paul n'a pas l'intention de faire de cette question le sujet principal de sa lettre à l'église de Philippe. Mais dans ce passage et dans un ou deux autres, il dit des choses qui devraient former un peu le cœur de la pensée chrétienne sur ce sujet. On voit ici que Paul se demande s'il survivra à son emprisonnement actuel et s'il sera libéré pour pouvoir rendre visite à nouveau aux Philippiens, ou si les autorités décideront qu'il vaut mieux qu'il soit mort. Et ce qui est curieux dans cette seconde alternative, c'est que Paul est en fait d'accord avec eux. En fait, il serait mieux mort. Ce que j'aimerais vraiment, dit-il, c'est quitter tout cela et aller rejoindre le roi. Mais alors attention, ça, il ne s'agit pas d'un désir de mort au sens de quelqu'un qui perd l'estime de soi, qui est en phase terminale de dépression et qui aspire à quitter cette vie le plus rapidement possible. Non, c'est différent. Depuis très jeune, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir dire, comme Paul, mourir représente un gain. Mais j'en étais presque devenue orgueilleuse. Moi, je peux dire ça. Lui, il n'y arrive pas. Et je pense que le fait de ne pas avoir de bien sur cette terre, ni de mari, ni d'enfant, m'aide beaucoup à pouvoir dire ça. Mais je me suis rendu compte, surtout il y a quelques années, quand j'étais en dépression, que pouvoir dire que c'est si facile pour moi de dire que mourir m'est un gain, ben, c'était surtout parce que je ne voyais pas de sens à ma vie. J'étais convaincue que la mort serait mieux. Et dans tous les cas, elle le sera. Mais à l'époque, j'avais plutôt envie de mourir pour échapper aux souffrances de ce monde, plutôt que pour Jésus lui-même. Et je n'aurais pas voulu rester sur cette terre souffrant pour continuer à partager l'évangile. En tout cas, je ne trouvais pas ça mieux ou aussi bien que de rejoindre Jésus. Mais Paul, comme le montre cette lettre, il est plein de vie et d'énergie, prêt à se remettre au travail dès qu'on le laissera sortir de prison. Mais Paul est aussi un amoureux du roi, un amoureux du Messie, du Jésus, qui, comme il le dit ailleurs dans Galates, qui est un homme qui l'a aimé et qui s'est donné lui-même pour lui. Pour lui, l'important, c'est la gloire de Jésus. Nous devons apprendre à prier pour que Jésus soit glorifié et non pour notre propre bien. Je dois apprendre à prier pour que Jésus soit glorifié et non pour mon propre bien. Et on doit se poser la question, que veut faire Jésus au travers de ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Et si on est honnête, ce n'est pas une prière facile à faire, ni une réponse facile à donner. Je disais tout à l'heure que le fait de ne pas avoir de biens comme une maison ou d'attaches fortes comme un mari, des enfants, m'aidait sûrement à pouvoir plus facilement dire que mourir représente un gain. Mais qu'est-ce que ça dit sur le fait que ce serait probablement différent si j'avais toutes ces choses? Est-ce que je pourrais sincèrement dire que Christ est ma vie? Est-ce qu'il y a des idoles qui se substituent à Christ et qui, consciemment ou non, je pense, pourraient me rendre heureuse et comblée? Quelles idoles m'empêchent de pouvoir dire sincèrement, du fond de mes tripes, Christ est ma vie, mourir représente un gain? Ok, je veux bien aller voir Jésus, mais d'abord, je veux avoir une belle vie, connaître la vraie vie. Quand j'aurai eu une belle carrière, je pourrai mourir. Quand je me serai mariée, je pourrai mourir. Quand j'aurai des enfants, des petits-enfants, je pourrai mourir. Quand j'aurai voyagé dans le monde entier, je pourrai mourir. Quand j'aurai accompli tel ou tel rêve, quand j'aurai pu profiter de ma retraite. Tu peux ajouter tout ce que tu veux. Quelle est la chose pour laquelle tu serais déçu si tu devais rejoindre Jésus avant de l'avoir fait? Et ça peut même être des bonnes choses. Tout ça, c'est des bonnes choses. Est-ce que c'est plus l'idée du paradis qui m'attire plutôt que la personne de Jésus? Est-ce que j'aurais autant hâte d'aller au paradis si Jésus n'y était pas? Et en fait, est-ce que je réalise que sans Jésus, le paradis n'est pas le paradis? Que c'est grâce à son autorité que nous vivrons sans souffrance? On peut le lire plus tard dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Jésus, à son retour, transformera nos corps misérables, notre être entier sera recréé, notre corps lui-même connaîtra la gloire. Nous vivons maintenant dans un corps d'humilité, un corps de péché, un corps de mort, comme on voit dans Romains, un corps faible et faillible, un corps sujet à la maladie et à la vieillesse. Quand Jésus reviendra, notre corps sera transformé pour devenir conforme au corps de gloire de Jésus. Mais comme j'ai hâte! Je pense qu'on ne réalise pas le bien-être immense qu'on ressentira dans nos corps et dans nos têtes. Pas un seul os de travers, pas un seul millimètre de trop sur une jambe, un tendon qui fait mal, un ligament déchiré, pas un seul problème de digestion, de sommeil, plus de migraines qui pourrissent la vie, plus de scoliose, de sciatique, plus d'arthrose, plus de douleurs incompréhensibles comme le vivent certaines personnes, plus de cancer, plus de cholestérol, plus de manque de vitamines, plus de dérèglements hormonaux créés par tout ce qu'on a mangé, plus de dépression ou autres troubles qui touchent la santé mentale, et surtout plus de péché. Et la liste pourrait continuer. Et cette transformation, elle sera possible uniquement par la puissance du Seigneur Jésus, qui a la force et le pouvoir de tout soumettre à lui. Sans Jésus, rien n'a de sens. Sans Jésus, rien n'a de sens. Avec Jésus, tout prend son sens et mon espérance est vivante. Et comme Paul, je peux dire avec confiance, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Pour conclure, ce passage nous encourage à voir nos circonstances avec les yeux de Dieu. Et franchement, c'est pas facile. Et on a besoin de son aide pour ouvrir nos yeux, de l'aide pour trouver notre joie en lui, même dans les circonstances les plus difficiles, confiant qu'il peut les utiliser pour l'avancement de son royaume. Paul était conscient de ce qu'il vivait. Les choses difficiles qu'il traversait étaient, et conscient que les choses difficiles qu'il traversait étaient utilisées par Dieu pour faire connaître Jésus et son œuvre de salut. Même s'il souffrait en prison, il ne se focalisait pas sur ses difficultés et le pourquoi de tout ça. Mais il avait une pleine confiance en Dieu, une pleine confiance que Dieu utilisait son emprisonnement pour le bien de l'annonce de l'Évangile. Paul ne se souciait pas non plus des motivations des autres tant que Christ était annoncé. Sa motivation première à lui était Christ lui-même. Sa vie était Christ et il préférait même mourir pour être avec lui. Mais son cœur pour les gens, son cœur pour le salut des âmes, le poussait à rester pour continuer à partager l'Évangile. Quel exemple pour nous de confiance et d'attachement à Christ. Pour finir, je vous propose un temps de silence et un temps de prière. Sentez-vous libre en réponse à tout ce qu'on vient de voir, de pouvoir demander de l'aide à Dieu ou juste ce qui vous vient sur le cœur et puis je terminerai.